Le génie artistique peut consister à faire accepter l'inacceptable.
Je crois que le créateur ne doit absolument pas se soucier de l'opinion du plus grand nombre, ni pour la mépriser, ni pour la rechercher. The dream.
L'art contemporain, c'est de la merde.
Si on veut faire quelque chose de différent, il faut s'attendre à ne pas rencontrer la compréhension tout de suite.
Artomatique, l'émission d'art qui te concerne.
Bonjour chers auditeurs de Radio Saint-Féréol, ce mois-ci sur Artomatique. Je retrouve Olivier Goutel autour d'une magnifique exposition qui peut se voir à Rompont, si les vaches avaient des ailes, jusqu'au 2 avril. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Marussia. Aujourd'hui, c'est ma première exposition, j'ai 68 ans, même très, très bientôt, et je mûris un petit peu... des comportements artistiques depuis que je suis gamin. C'est un petit peu ce que je vais expliquer pour montrer ce parcours qui aujourd'hui devient pour moi enfin clair par des discours qui ne sont pas uniquement des discours de peinture, mais qui sont aussi un cheminement, je dirais, philosophique et aussi mathématique. C'est un petit peu mon propos. Comme image phare ou comme lecture phare, j'aime beaucoup citer Gödel, Escher et Bach, qui est un livre qui a été mon fondement depuis très longtemps, même s'il est d'une arditude insupportable. C'est très très compliqué. Gödel, mathématicien, Escher, dessinateur, et Bach, le musicien. Et ils ont dans ce livre, d'une manière très explicite, le lien qui les réunit, qui est une même philosophie de la vie. Et pour moi, ça, c'est un petit peu le résumé, en fait, depuis donc, que je suis tout petit, ce sentiment artistique dont j'ai hérité par une famille qui a été florentine à la Renaissance, une autre qui était stéphanoise depuis le XVIe siècle, avec donc des fondements familiaux, artistiques très forts, mais que j'ai découvert il y a très peu de temps au moment du décès de mes parents. C'est souvent comme ça qu'on fait. On découvre les choses quand enfin elles se lisent, qu'elles éclatent à notre regard. Aujourd'hui, je vais commencer un petit peu par vous expliquer mon parcours, parce que je pense que les parcours nous fabriquent, nous fondent et nous donnent un petit peu une image de nous-mêmes quand on arrive à les dépasser et puis surtout à les rendre explicites. Et pour moi, cette explicitation de mon travail, parce que les trois baisers qu'on va découvrir là, principalement, on va s'arrêter sur ces trois. Il y en a deux autres très grands aussi qui sont exposés. Ce sont des très grands formats de 1m50 par 1m50 et qui ont été pour la plupart faits à plusieurs. Ça aussi, c'est une manière de faire un fonctionnement très spécifique et que j'ai mis en place depuis très longtemps.
Donc, pour nos auditeurs, ce sont donc des grands formats de peinture abstraite sur papier, avec de la matière pigmentaire, de la peinture. Donc ce sont les trois baisers.
Voilà. Ouais. Je reviens un petit peu sur ces rencontres. Mon premier copain de maternelle était le fils du directeur des Beaux-Arts de Saint-Étienne. Son papa, Georges, est celui qui a fait que, par un jeu de hasard, au lieu d'être géologue, je suis devenu architecte par une décision de hasard. J'aime bien ce mot hasard. Et donc, avec Claude, je dirais qu'on s'est suivi de la maternelle jusqu'à Archi, à la fin de l'école d'Archi, donc pendant très longtemps, avec des pauses, des déceptions, puis des retrouvailles, et puis des moments plus lointains. Et puis, ça a été ma première rencontre fondamentale, puisque je me suis frotté à l'art d'une manière très forte. Maman était modiste de haut vol, puisqu'elle, à partir de 36, elle faisait des expositions à Paris. Elle coiffait, si on peut dire, c'est pas une coiffure, mais c'est un chapeau. Alors, elle dit chapeautait, mais c'est pas un mot qu'on utilise souvent. Les têtes bourgeoises des industriels locaux autour de Saint-Étienne, de Lyon. Et donc, elle avait comme amie, donc Madame Totel, qui nous a permis d'entrer dans cette univers, m'a permis à moi d'entrer dans un univers qui était le même qu'à la maison avec des chapeaux, mais d'une autre dimension. Le deuxième élément, qui était aussi une rencontre de hasard, c'est en fait, nous habitions à côté des Nouvelles Galeries à Saint-Étienne, et le décorateur de Saint-Étienne, qui était un communiste véhément, qui s'appelait Paul Cossandier, était le bras droit de Jean Lursa pour faire des tapisseries. Quelques-uns doivent encore se souvenir, et notamment une tapisserie qui a été phare, puisqu'elle a été retranscrite par Louise Bourgeois à Bilbao, par sa gigantesque araignée. Et cette araignée, c'est Paul Cossandier, qui a été le manager de cette réalisation. Et tout petit, je léchais ses vitrines, on avait une complicité qui s'est mise en place. Et en sixième, quand on m'a demandé de faire une première présentation devant mes copains au lycée Fauriel, à l'époque on était 45 en sixième, il y avait 12 sixièmes au lycée Claude Fauriel, j'étais bien sûr sixième 1. Et le discours a été de dire, je me suis frotté un petit peu du milieu artistique à des gens, je ne comprenais pas grand-chose, et je suis allé voir Paul, j'ai dit je voudrais faire un truc sur le dadaïsme. Et en sixième, c'était un peu chaud, c'était compliqué, j'y comprenais rien, mais j'avais deux guides qui m'ont permis d'avancer sur la compréhension de cette rupture phénoménale qui a été, après la guerre de 14, une explosion de artistique pour casser les choses, comme peut-être on va le vivre après l'Ukraine dans quelques temps, parce qu'il va falloir qu'on se recompose. Et puis la deuxième année, donc en cinquième, j'ai fait un truc sur le surréalisme, où là je me suis avalé les chants du Malto d'Or, et j'y comprenais rien, même aujourd'hui j'y comprends pas grand-chose, puis moi, breton, etc. quoi. Donc j'ai eu la chance d'être tombé gamin sur des choses qui étaient d'une pertinence, qui me dépassaient complètement, et de faire ce choix. Après, dans les autres personnes qui m'ont composé, j'ai eu un prof d'art, qui s'appelle Franck Morel, qui était vraiment, j'en ai un petit peu des frissons, qui était vraiment un pilier vraiment très très fort. Et voilà, donc c'était des rencontres assez magiques. Et je pense que c'est important que je m'exprime, parce qu'aujourd'hui, c'est le après. Ces fondements dont j'avais aucune lecture quand je les vivais, qui aujourd'hui m'ont fabriqué, c'est une évidence. J'ai quatre filles artistes, ça aussi c'est aussi très étonnant, parce que ça n'a jamais été un but aucunement. Et donc depuis donc cette période un petit peu du choix de faire archive, j'ai fait énormément d'activités diverses. J'ai surtout bossé en plongeant dans l'informatique au tout début, et en faisant partie de l'équipe graphique d'Apple pendant une dizaine d'années, à organiser des stages, à être Apple Expo, à vendre d'une manière verbale des projets qui sont des projets qu'aujourd'hui on utilise tous, par exemple dans nos téléphones, des projets différés d'images, de compulsion d'images pour en faire des 3D sur Google Maps par exemple. Moi j'ai des souvenirs d'avoir fabriqué, montré un logiciel qui s'appelait PhotoVista, qui recomposait des images 2D en images 3D. Mm-hmm. Non, mais ça c'était 92.
Et là il y a un lien avec l'exposition d'aujourd'hui, parce qu'il y a, et ne serait-ce que les références que tu as citées, il y a un lien avec les mathématiques, les algorithmes, quelque chose.
Ouais. Voilà, c'est clair, c'est clair. Ouais. Alors aujourd'hui, il a fallu que une chose qui est aussi importante, c'est que j'ai eu une période à Lyon où en fait j'ai rencontré Poun, Pascal, qui est ici le créateur avec Mathilde de ce lieu, c'est les vaches avec des ailes, et on a eu une histoire commune sur le métissage de la musique et comment pendant 11 mois par an on faisait 4 à 5 concerts par semaine, avec une petite jauge, mais où on a rencontré et fait rencontrer tout le monde et développé parallèlement à une trajectoire musicale, une trajectoire aussi artistique. Et moi, à ce moment-là...
C'était au Café Musique.
C'était le Café Musique.
Le Café Musique à Lyon, qui est devenu après, donc qui est maintenant toujours le Craspec Musique.
Repris par Poon aussi, et puis Rodolphe, etc.
Tout à fait.
Voilà, il y a toute une histoire là-dessus. Et moi, à ce moment-là, je sortais beaucoup en boîte. Hein, j'avais une copine qui faisait 3 soirs par semaine, mais moi, je faisais 1 soir tous les 15 jours, parce que j'étais de garde, j'avais une petite fille avec moi. Qui m'a suivi aussi, qui est allé découvrir la musique et qui était très amoureuse de Poon à l'époque.
Nicolas Lance, Ô Amabilis Amor. Artomatique, Maroussia pour Radio Saint-Ferréol.
Je reprends un petit peu mes propos et par un propos qui est aujourd'hui plus dans le sujet, c'est comment j'ai fabriqué ces grandes peintures, et ces grandes peintures qui font sont un très grand format, 1m50, c'est la dimension du rouleau, elles vont de 1m50 à 3m, en général avec des modules tous les 50 cm, suivant les thèmes. Et ces peintures, je les ai donc réalisées à plusieurs. C'était un petit peu une sorte de manière de communiquer dans l'intimité de ses amis futurs, où certains sont restés vraiment des amis très forts, ou au contraire des gens de passage qui ont participé à un partage d'intimité entre nous. Et le lieu, c'était un repas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'image un petit peu du banquet de Platon, où en fait on délie les langues en mangeant, et pour moi c'était même un peu plus, c'était on fabriquait un repas, et des gens arrivaient avec, on était entre 5 et 12, arrivaient avec quelque chose à manger, une idée ou rien du tout, et puis on ouvrait le frigo et on fabriquait quelque chose ensemble. Et ce démarrage nous permettait aussi de se connaître, parce qu'on ne se connaissait pas tous. Moi, je connaissais tout le monde, mais la plupart ne se connaissaient pas entre eux. Et donc, il y avait ce moment de partage où il fallait partager la nourriture ensemble. Bien sûr, on buvait pas que de l'eau, mais pas que. Et aussi, tout le monde, ça c'était systématique, c'était un univers musical. Là aussi, l'empreinte du Café Musique était toujours présente, avec des musiques inconnues. Je me souviens d'un copain, Lionel, qui connaissait l'ensemble des albums de Zappa, pouvait les donner dans l'ordre, et bien sûr, il connaissait les 120 albums aussi de John Zorn, que je ne connaissais pas à l'époque. Voilà, donc on a eu des échanges musicaux fabuleux, mais aussi, on avait la chanson française avec Martin et ses antécédents, où il est venu plusieurs fois. Donc c'est vraiment un pote, parce que quand j'étais trésorier, lui était secrétaire, ou inversement, là, du café. Donc on a eu beaucoup d'échanges, et donc on terminait les choses donc avec des peintures, ou parfois on revenait le lendemain, on faisait des peintures au sol. La technique est à la fois simple et compliquée, parce qu'elle nécessite 3 heures, et au-delà de 3 heures, tout part en vrille. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, donc le découpage du format, et puis on mouille 3 fois, donc une première phase, puis après une autre phase, on retourne, et encore une fois, une deuxième phase qu'on met au sol, donc on a 2 couches d'humidité entre le papier et le sol, et puis on scotche, et là le 1m50 devient 1m51 à peu près, donc c'est assez bizarre, et on a le droit à 3 heures pour pouvoir peindre. Donc c'est cette peinture, il y avait un thème qui se dégageait, qui était vraiment une œuvre de hasard. Il y avait une palette où j'intervenais peut-être un petit peu plus sur le choix coloré, en disant aujourd'hui on va bosser sur ce jaune, ce rose et ce vert, et avec quel type d'outils, bien que les outils soient beaucoup plus vagues, il y avait énormément de choses possibles, d'une manière, par des instruments ou même par des mains, par des doigts, des chiffrons, voilà. Et le fait d'être au sol et d'être à plusieurs faisait que personne n'avait un territoire très spécifique sur la peinture, et était obligé de partager, là aussi, ce que j'appelais une sorte d'intimité psychologique, pour pouvoir faire que chacun ait un morceau de territoire, lisible ou illisible par des couches superposées, ou par la destruction du travail de l'autre, ou au contraire, et ça a été mon rôle, une sorte de rôle un peu comme l'architecte, c'est-à-dire chef d'orchestre de tout un tas d'autres personnes. C'est une belle image que j'aime bien, c'est d'avoir un recul, et puis d'intervenir sur le travail des autres, ou mettre le mien, pour pouvoir redonner une organisation, une vie à masques l'on avait fait, par tout un tas d'artifices qui étaient chaque fois différents, mais qui nous permettaient d'avoir une image stable, et stable en regardant chacun des quatre côtés, ce qui fait qu'aujourd'hui, les baisers que j'expose ici peuvent être tournés. D'ailleurs, si vous venez ici à Rompon, vous pourrez découvrir un petit peu que les signatures, elles sont à droite, en bas, à gauche, en haut, et que le travail qui a été utilisé après pour les mettre en scène par des formats d'impression, de découpage successifs, font complètement fi d'un positionnement plutôt que d'un autre. C'est peut-être plus le jeu de hasard qui fait que aujourd'hui ils sont exposés de cette manière, quoi. Donc ça, c'est un point très fort, c'est donc le faire ensemble, et le faire ensemble avec un lien musique, philo, et puis bien sûr, ce qui pour moi était latent, et pas forcément très apparent, mais une sorte de composition, une mécanisation mathématique un petit peu de ces ouvrages. L'autre travail qui aujourd'hui, parce que ces travaux se sont faits dans les années 2000 jusqu'à 2006, donc je suis parti de Lyon, ça a été de donner une distance pendant 20 ans à tous ces travaux, en ayant germé tout un tas de possibilités. Ces possibilités étant de, c'est ça l'idée un petit peu maîtresse, c'est de fabriquer une sorte d'éclatante fixée. Bon, on se souvient tous de ce texte des surréalistes qui s'appelait « L'explosante fixe ». Qui a donné une direction à énormément d'artistes et qui a fabriqué au début du XXe siècle une direction pour l'art qui était capitale et qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout, juste dans la manière dont on s'habille, dont on regarde un film ou une série à la télé. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce regard qui, moi, m'a composé et que je vais essayer de retrouver. Alors comment je veux le retrouver ? Aujourd'hui, j'ai une sorte d'intuition qui est de dire, mes tableaux n'étant pas que mes tableaux, c'est des tableaux avec d'autres pour la plupart, j'ai donc cette base fondamentale de travail avec les autres. Et ce que je voudrais, c'est que cet autre, qui aujourd'hui va se retrouver du côté d'Internet, va pouvoir faire un choix en mixant deux choses, c'est-à-dire la partie artistique que je vais donner et la manière aléatoire. Donc l'acheteur va pouvoir casser un petit peu mes tableaux, les décomposer, les quadriller, les agrandir, les mélanger et fabriquer une œuvre qui sera personnalisée. Et cette personnalisation, elle doit être entérinée par cette technologie dont on commence à entendre parler, hein, qui s'appelle le blockchain, avec tout cet argent virtuel qui a été mis en place et qui bétonne un petit peu une alternative aux banques, même si c'est compliqué aujourd'hui de faire un tri avec toutes ces monnaies virtuelles. Mais ça s'appelle au niveau artistique la NFT. Le NFT, c'est en fait un moyen de faire que un artiste est capable, par cette technologie, de vendre une œuvre unique à une personne unique et d'avoir aucun lien physique avec ce qui se passe au niveau artistique. Donc mon idée, c'est de fabriquer donc à partir d'œuvres que l'on peut toucher, voir, mesurer, regarder, quelque chose que d'un coup de baguette magique, avec des algorithmes sans doute assez brutaux, pas trop complexes, après peut-être qu'il y aura une gestion de complexité qui viendra, pour faire que ça soit un petit peu comme, je vais prendre une image, qui est une image de ces essais qui sont exposés en face de ces trois énormes tableaux, il y a une vingtaine de petits tableaux différents, qui reprennent cette idée de décomposition, recomposition. Donc les quatre tableaux phares ici, donc, comment ont-ils été faits ? Il faudrait que j'essaye de les expliquer, parce que les décrire, quoi. En fait, donc, dans ce groupe des quatre, qui est le groupe central,
Donc ce sont des formats carrés qui font un peu 60 par 60.
Oui, à peu près, ouais. Hein, 60 par 60. Donc là, c'est un découpage 7x7 de l'image virtuelle de ces tableaux qui fabrique des petits timbres postes de 3 cm de côté. Et ça fait donc 49 petits carrés. Et ces petits carrés se situent dans un plus grand carré qui est, je dirais, on peut dire à peu près 30 par 30. Et on peut bouger le tableau et fabriquer d'une manière aléatoire une nouvelle composition par le fait que ces petits morceaux de puzzle ne sont pas collés et sont bougeables. Et quand le tableau ne vous plaît pas, c'est-à-dire la manière dont c'est fait, ben le jour où ça va atterrir chez vous, si vous venez l'acheter par exemple, ben vous pourrez avoir une autre manière d'avoir ce baiser numéro 1 ou ce baiser numéro 2 ou ce baiser numéro 3 recomposé à votre manière, à la manière dont ça vous plaît, dont d'une certaine manière, je n'ai pas voulu fixer les choses, hein, que ce soit le regard, mais aussi l'acheteur, celui qui regarde, hein, qui soit en fait le maître du jeu pour cette recomposition. Et je pense que ce n'est pas du tout neutre que j'ai choisi cette thématique des baisers, parce que ces baisers, c'est vraiment l'intimité forte que l'on peut avoir. Je pense que pour moi, le coït est peut-être quelque chose d'encore plus extrême dans nos plaisirs, mais le baiser, il garde une trace, et cette trace, elle a été très violente quand j'ai vécu avec Isabelle à ce moment-là, où on avait besoin, où j'avais besoin d'exprimer la violence de l'amour qu'on avait ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, transmettre des baisers à quelqu'un d'autre, c'est une sorte de parole d'amour, c'est aussi une manière de se projeter dans un univers qui aujourd'hui est apocalyptique, avec lequel on ne sait plus du tout comment se situer. Et je pense que mon travail essaye d'aller dans cette direction, c'est comment recomposer le après qu'on imagine avec une catastrophe qu'on commence à vivre à côté de chez nous. Donc voilà un petit peu la correspondance entre ces énormes tableaux d'un mètre cinquante au carré et puis une juxtaposition d'une cinquantaine, 49 petits carrés. Et puis il y a un quatrième carré qui lui semble vide, mais il n'est pas vide parce que sur les 49, j'ai prélevé chaque fois un carré avec prélevant sous forme de jeu de hasard. J'en ai prélevé un dans chaque baiser 1, baiser 2, baiser 3, et ils sont tous les trois un petit peu étriqués, mais ils donnent aussi le souvenir du baiser. Le baiser, il peut être entier, il peut être aussi formalisé par une succession de différences infimes, mais qui fabriquent en fait cette notion qui nous habite tous, cette notion d'amour permanente qui est une quête extravagante dans un quotidien parfois très tumultueux, mais il nous permet de nous projeter et de fabriquer aussi une autre histoire. Donc pour moi, c'est une histoire de ces baisers il y a 20 ans et puis de leur recomposition aujourd'hui. Donc maintenant, à partir de cette idée que j'ai essayé de développer, j'ai fait tout un tas d'essais qui sont une vingtaine de tableaux regroupés et qui permettent de valider un petit peu d'une manière pragmatique, formelle et manuelle ce que je viens de vous décrire. Donc à vous de venir ici pour voir si les vaches s'envolent et atterrir au milieu de mes puzzles différents. Puis, si vous allez un petit peu plus loin dans la cour, vous verrez aussi un grand tableau qui s'appelle Pirouette, hein, qui est très important pour moi, et puis un autre qui est très grand format, qui s'appelle Puzzle, qui est aussi une composition que je trouve très dans la même philosophie que ce que je viens de vous décrire.
Et voilà. Merci beaucoup Olivier pour cette... Alors c'est très intéressant de rentrer dans le processus en profondeur, et après c'est vrai que sur la dimension plastique, c'est vraiment une belle exposition. Et les grands formats qui sont dehors aussi sont très impressionnants. Alors, je vous invite vraiment à venir voir l'exposition qui a lieu jusqu'au 2 avril à Rompon, l'exposition d'Olivier Goutel. Merci encore Olivier.
Merci Maroussia, bon vent. Thank you.
vous pourrez retrouver cette émission et les interviews sur le site de Radio Saint-Ferréol, à la page des émissions culturelles, à la page de Artomatique plus précisément. Et bien sûr, cela devient un rituel, les musiques que vous entendez au cours de l'émission sont la réponse à la question « Qu'est-ce que tu écoutes quand tu travailles ?» De la même manière, sur la page de l'émission, vous trouverez un visuel d'une œuvre dont on a parlé pendant l'émission. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Maroussia pour l'émission Artomatique sur Radio Saint-Ferréol. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Au revoir.